Bien le bonjour à tous et bienvenue au Club Critique du 21 avril 2021. On est les trois originales qui sont ici aujourd'hui. Les Original Crew. Yes. Donc, Gab Tremblay, salut.
Oui, comment ça va, Guillaume?
Ça va très bien, toi?
Oui, super bien.
Émilie Rioux,
ça bonjour. Va très bien, je joue de la guitare à ta
Yop.
OK, oui, ça va bien, Guillaume.
Yes! bienvenue à vous deux. Puis, donc, on va décortiquer encore une fois des albums de la semaine.
On peut-tu souligner qu'on est en studio aujourd'hui?
On est en studio aujourd'hui.
La semaine dernière, on a fait ça hors studio. On a fait ça dans un... On avait de la radio de camping la semaine dernière avec Anne-Lydia Plourde, Gabriel Tremblay, moi-même. Puis là, on a arrêté de bouder Guillaume. On a dit on va le réinviter à l'émission.
Ben oui, c'est moi qui reviens un peu, là.
fait que oui, on décortique des albums aujourd'hui, comme d'habitude. Mais là, on a une belle sélection aujourd'hui. Là. C'est spécial.
Ben, très belle sélection. Gab, tu vas nous parler d'un groupe de Toronto.
Oui, Born Ruffians.
Yes.
Qui sortent une collection de B-sides, donc des pièces inédites qui n'ont pas décidé de paraître sur les albums précédents. Donc voilà, une parution de collection.
J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Yeah. Émilie, tu vas nous parler de London Grammar.
Ben oui, moi, vous me connaissez, en fait. Là, je connais très peu de choses sur la musique. Mais en fait, j'ai beaucoup de rattrapage à faire sur des bands. Tu sais, on parlait de Lana Del Rey il n'y a pas longtemps, oui. Que je n'avais pas encore entendu, que je n'avais pas encore écouté d'album complet de Lana Del Rey. Et on est devant le même scénario avec London Grammar.
Mais mon Dieu!
Exact.
Qu'est-ce que tu fais dans une radio? C'est pas vrai.
J'en ai aucune idée. Moi, je viens de la radio commerciale.
Oui, c'est ça.
Donc, de toute manière, j'ai du retard là-dessus. Je connaissais London Grammar, mais j'avais jamais pris le temps d'écouter un album. Alors, ça va être une première pour moi. Je vous parle de leur tout dernier album paru la semaine dernière.
Yes, et moi, je vous parlerai du nouvel album de CFCF, artiste électronique de Montréal.
Ouais.
Donc, mais pour débuter, on va commencer avec les actualités de la semaine. Émilie, yeah. Qu'est-ce que tu as à dire?
Actualité.
Actualité.
Merci, Manon. Actualité, il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles chansons. Vous le savez, là, si vous avez tendu l'oreille et regardé un peu vos réseaux sociaux dans la dernière semaine, on a eu une avalanche de nouvelles chansons.
Ah oui.
Et ça, c'est le fun parce que ça vient souvent avec le printemps. Alors, ça annonce quand même là, cette espèce d'achalandage de nouveaux albums, de nouveaux singles. Souvent, ça annonce la saison des festivals, mais on dirait que cette année, ça me le dit pas
point,
tant que
point,
ça.
Point, point, point.
Mais quand même, là, on sent qu'il y a une certaine débouchée. Puis moi, ça me rend vraiment heureuse parce que l'an passé, je fais une rapide parenthèse, on se souvient que c'était le festival de l'album reporté, l'album de Claude Pelgag qui avait été reporté. Les gens étaient très frileux à sortir des chansons et des albums, alors que cette année, je pense qu'on a une plus grande aisance. Alors, on risque de pouvoir se réconforter un petit peu avec ces nouvelles musiques-là. Valence a sorti une chanson.
Ouais.
Ah, notre boy Valence qui a signé avec Chivi Chivi, petite étiquette de disque montréalaise.
Oui, très sympathique.
Exact. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour notre grand vainqueur des Francouvertes de l'an dernier. Je pense que ça annonce des belles nouvelles. Alors, vous l'entendez sur les ondes de Chiche, je pense abondamment dans les prochaines semaines. Jamais j'aurais pensé. Ex-boy de Lévis, Les Louanges, qui a sorti une chanson et un vidéoclip. Avez-vous entendu ça?
Oui, ouais. Tout à fait. Pigeon.
Pigeon.
Exact. Puis ça reste dans la tête. Ce matin, tu la chantais, Gab, avec une nonchalance légendaire.
J'enverrai des cartes, j'enverrai des pigeons.
Voilà. Ben, c'est ça, tu sais. Les Louanges Tremblay dans les studios.
Vincent Roberge.
Vincent Roberge, qu'on salue, qu'on aime beaucoup. Mm-hmm. Toujours le bienvenu à Chise. Un groupe de Québec qui vient de sortir, qui s'appelle Festoute. Vous les avez entendus dans l'émission du midi avec Guillaume Bédard.
Yes.
C'est en fait ni plus ni moins que les gars de Best Foot Forward, qui est un groupe qui a arrêté d'exister il y a quelques années, mais qui ont décidé de, disons, renaître de leur cendre avec un nouveau type de projet.
Ouais.
Un peu plus funk, très joual, très...
Funk, rock, slam.
Ouais, c'est ça.
Avec une tendance hip-hop.
Mais... non, pour vrai.
Même folk un peu, à limite.
Oui, mais aussi.
Prenez tous les genres musicaux, brassez ça ensemble, puis pitchez ça sur la table. Ça va vous donner Festoute.
Ouais.
Première chanson qui est sortie, qui s'appelle Street Bang.
Mm-hmm.
Et donc, on vous avait entendu aussi, en entrée d'émission, Hippie Oura. Ça, c'est un band assez psychédélique. Stone, des membres de Elephant Stone, des membres des Marinelli là-dedans.
Exact. Donc un méga groupe là, avec des artistes de d'autres bands.
C'est ça. Alors, allumez de l'encens, faites de l'acide et écoutez Hippie Oura, c'est fantôme.
C'est le mood. Ouais, clairement le mood.
et on a une nouvelle collaboration. Je pense que la chose la plus surprenante de la semaine, c'est une chanson mettant en collaboration Gabriel Shank et Naya Ali. Et c'est ce qu'on va aller entendre dans les prochains instants. Gab, toi, t'en es concentré un petit peu plus que moi sur cette collaboration-là.
Ouais, cette pièce-là, en fait, c'est la trame sonore de la série La Reine sur Télé-Québec, donc une web-série, une courte web-série. C'est la thématique de la saison 2, donc la collaboration avec Naya Ali et Gabriel Shank. Naya Ali qui est comédienne dans cette série-là aussi, d'ailleurs.
Tout à fait.
Et c'est à écouter où, si je veux aller regarder ça,
sur,
moi?
La série?
Oui, oui, la
sur
série.
Sur le site de Télé-Québec.
Tout simplement. Ouais. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'on retrouve Naya Ali et Gabriel Chong.
Oui, il y a deux saisons, la
ensemble,
reine.
Là-dessus, la chanson s'appelle Time. Mm. Et même si c'est l'affaire que je m'attendais de trouver le plus awkward, c'est même pas des timbres de voix qui se ressemblent, c'est même pas des univers musicaux qui s'accordent.
Pas du tout.
Étrangement, ça fonctionne, on va aller entendre ça.
Ils se répondent super bien.
Ouais.
Vraiment, donc c'est notre mention spéciale de la semaine au Club Critique Time de Naya Ali et de Gabriel Chong sur les ondes de Chiz. Et restez là, on vous parle de CFCF, première critique. It's don't feel right, I know what you want. It's don't feel right, I don't feel right. It's flowing, my life is going so good. Open door, close shut, let it go. No hope, high rise, low soul. Give it up, turn cold. How does pride die gold? Turn to stone, your light. Naya Ali avec Gabriel Chong sur les ondes de Chiz, la pièce Time. Puis là, Guillaume, tu viens de faire un gros statement. T'as dit Naya Ali. Non, c'est toi qui as dit Naya Ali.
J'ai dit Naya Ali, meilleure rappeuse au Québec.
Wow.
Peu importe la langue, français, anglais. Ouais. Je l'assume.
Exact. Ben, mais toi, Guillaume, tu nous dis Sarah May, ça serait ton coup de cœur, ouais?
Sarah May, moi, elle vient me chercher, là. Je trouve qu'elle a un flow qui est parfait. Je veux dire, il est comme super smooth, puis en même temps, réellement investi, mm-hmm. il est mm-hmm. juste dans les... Il est vrai, Moi, je l'adore.
Hey, on s'en va pas dans le rap du tout pour le prochain segment, mais c'est pas grave, fallait quand même qu'on fasse une transition en douceur. Guillaume, tu vas nous parler dans quelques instants de CFCF.
Oui.
Puis, bon, c'est un album qui a des chansons assez colossales, d'autres qui ne le sont absolument pas. On va aller écouter un extrait.
Ça, c'est toi qui viens de dire ça. Moi, je suis pas d'accord, mes gars.
non, colossal au sens de la longueur.
Oui, une heure, 12 minutes.
De la grosseur de la chanson.
Oui, OK, je pensais dans les dans l'impact.
Là, tu nous feras le commentaire que tu veux là-dessus, mais
d'accord,
on va aller entendre un extrait de Self-Service.
Oui, puis en fait, juste pour mettre dans le bain les écouteurs tout de suite, c'est un album.
Mais pas tes écouteurs dans le bain.
Les gens qui écoutent, là. Les gens qui écoutent.
Wow, les auditeurs, c'est drôle. oui, en fait, juste pour vous mettre tout de suite là, ben,
dans le contexte,
ouais. Je vais nommer que c'est un album qui s'est inspiré énormément de l'électro, de la scène fin 90. Donc, vous allez reconnaître immédiatement des influences en écoutant la première chanson qui s'appelle Self-Service 1999. Donc, tout de suite, vous allez entendre du Daft Punk. Je vais le nommer parce que c'est trop facile
trop
à trouver.
Facile.
Et ensuite, ben, je vais pouvoir vous parler du reste.
Exact. DJ Montréalais, CFCF, on vous donne un bref aperçu. Puis après ça, Guillaume nous décortique tout ça.
Bye.
première critique.
On vient d'entendre CFCF avec un extrait de la pièce Self-Service 1989. L'album s'appelle Memory Land et c'est Guillaume Pépin qui nous en parle.
Oui, donc CFCF, un artiste de Montréal qui s'appelle en fait Michael Silver. Il nous présente son 7e album, mais il a sorti beaucoup de EP aussi. C'est un artiste très, très prolifique qui va dans plusieurs styles, mais qui s'influence beaucoup dans l'électro, mais il va dans le New Age aussi. Il va dans le néoclassique. Il a fait un album en 2017 d'ailleurs avec Jean-Michel Blais.
Ouais.
Donc, il va vraiment dans plusieurs zones. Donc, c'est ça. Il se laisse influencer de beaucoup de styles électroniques, dont son dernier EP aussi était dans le style très drum and bass jungle, qui reprend cette fois-ci, mais de façon vraiment, il pousse là au plus qu'il peut, avec Memory Land. Donc, Memory Land, c'est un album conceptuel. Il nous arrive avec une espèce de melting pot de tout ce qu'il pouvait prendre des fin 90, début 2000 aussi.
Ouais.
Dans les influences électroniques. C'est vraiment des années phares pour la musique électronique. C'est des années qui étaient vraiment très créatives. Puis même, c'est des années où on entendait cette musique-là à la radio commerciale. Ouais. Je veux dire, on entendait du Daft Punk, Chemical Brothers. Oui, Chemical Brothers. Prodigy, Underworld. Ouais. On les entendait à la radio. T'sais, donc, c'était des années très phares pour la musique électronique commerciale. Et il est allé piger là-dedans. Donc, ça donne un espèce de gros melting pot. Et dans chacune des chansons, on peut aller piger et reconnaître ses influences. Il y en a plusieurs par chanson. Ça veut dire que ça passe de chiptunes à quelque chose d'un peu plus garage, à quelque
punk,
chose...
Punk, pop. Puis,
oui, c'est ça, je parle d'électro, mais il se laisse influencer aussi par tout ce qui était post-grunge ou Smashing Pumpkins.
Même phrase, les Chemical Brothers puis Smashing Pumpkins.
Oui, c'est ça. Mais c'est parce que les guitares, il y a beaucoup de guitares quand même, puis on sent du Sonic Youth, du Smashing Pumpkins, Veruca Salt, tu sais, bon, la power pop de cette époque-là, un peu de shoegaze, un peu de dream pop. Donc, il fait vraiment un melting pot de tout ça. Et ça se tient quand même. Oui, bon, tu passes de un à l'autre, mais tout ça est super bien foutu. comme on disait aussi, on en parlait tantôt, la réalisation, on était comme, c'est un peu moins bon, c'est un peu moins fort, mais c'est voulu. En fait, une espèce de volonté de faire en sorte que ça soit un truc très brut, puis très lancé, comme s'il avait fait ça en 96. Là,
ouais, mais donc, ça se pitche dans tous les sens, mais je pense que, étant donné qu'on assume que c'est un album concept et que c'est ça le concept, c'est peut-être pour ça, pour toi, que ça fonctionne.
Oui, pour moi, ça fonctionne. Puis bon, personnellement, ça, c'était les années où ce que j'étais ado. Fait que, tu sais, je veux dire, j'étais allé dans ma tête, dans ma discographie personnelle, je faisais des liens avec tout, là, tu sais, juste pour donner des exemples. La chanson End Curve of Forgetting, on entend du Aphex Twin mélangé avec du Chemical Brothers. Ensuite, c'est ça, là, vous l'avez entendu, Daft Punk est présent. Sinon, il y a une tune qui s'appelle Life is Perfecto. C'est vraiment une grosse allusion à Paul Oakenfold.
Ouais, c'est ça.
Un DJ très, très fort dans ces années-là. Sinon, la tune After the After, qui est très urban, mais électro-urban, un peu à la Craig David à l'époque. Donc, c'est très... il va vraiment là, dans plein de styles. Donc, c'est, pour vrai, ça fait du bien. Moi, qui étais fan de jungle puis de drum and bass à l'époque, puis de big beat, je veux dire, j'ai embarqué là-dedans comme larron en foire.
Moi, j'ai une question. Est-ce que vous n'avez pas trouvé ça trop long? Je comprends, là. Mais moi, maintenant, à la fin, j'ai trouvé que j'étais épuisée, en fait.
Première écoute, oui. Puis ensuite, j'ai comme décortiqué. Fait qu'à chaque fois que j'arrivais avec une nouvelle chanson, là, j'étais plus, tu sais, vraiment très pointilleux à savoir, OK, qu'est-ce qui est allé chercher, là? Ce qui fait que j'ai fait un espèce d'exercice de style qui m'a permis de prendre le temps d'écouter chacune des chansons puis de faire comme, oh mon Dieu, là, j'entends tellement The Orb en ce moment. Ah, puis là, j'entends tellement... Tu sais, puis fait que moi, j'ai eu un espèce de plaisir à réécouter. J'avoue que la première écoute, oui, c'est quand même 16 chansons, certaines qui durent
entre 7 et 10 minutes.
Puis d'autres que c'est 1 minute 30.
D'autres, c'est 1 minute. Des interludes à travers aussi.
Ouais. Des interludes, puis... donc, c'est ça. Donc, mais il nous surprend quand même toujours. C'est ça qui est super. Donc, t'es dans l'électro, puis à un moment donné, t'as Punk Song, qui sonne hyper power pop, hyper, tu sais, vraiment... oui, c'est ça. Donc, on, avec des guitares, du reverb, puis... mais qui dure 1 minute 30, tu sais, même pas, là.
C'est vraiment une parenthèse. T'as comme un trip, après ça, t'as une parenthèse de quelque chose d'autre, puis il t'envoie dans une autre direction. Gab, toi, overall, qu'est-ce que t'en as pensé?
Effectivement, c'était un peu trop dense, à une écoute, du moins.
Dance,
là.
Faut dire, dance.
C'est un peu trop dense. T'es dense et dense. Ouais. Mais oui, effectivement, j'ai trouvé ça un peu lourd. Même si j'adore le style, c'est quand même plaisant à l'écoute, puis il y a plein, effectivement, plein de collages. C'est vraiment un scrapbook géant. Là.
Oui, oui.
C'est difficile à déceler et à analyser, surtout. Là, où j'ai apprécié. Surtout des pièces aussi, Model Castings avec No Joy, que j'ai beaucoup aimé.
Oui, oui, il faut parler quand même des featuring. Ouais. No Joy, un autre un groupe de Montréal qui est présent. Et sinon, Sarah Bonito, qui est la chanteuse de Quiero Quiero Bonito, qui fait dans la pop expérimentale, eux aussi. Donc, ça se regroupe. Là.
Mm-hmm. Ouais.
Ben, c'est ça. Il y avait beaucoup d'affaires là-dedans. Moi, ce que je me suis demandé, et je te lance la question peut-être en terminant, Guillaume, c'est dans quelles circonstances tu écoutes ça?
Dans
quel contexte tu recommanderais l'écoute d'un album comme celui-là pour quelqu'un peut-être qui ne connaît pas déjà CFCF, peut-être même quelqu'un qui n'a pas nécessairement les référents que tu as de cette période de phare de la musique électronique?
Ben, personnellement, pour rentrer dans le monde de CFCF, je pense que c'est un très bon album, étant donné que c'est, ça s'appelle Memory Land. Hein? Donc, c'est vraiment sa mémoire, c'est ses souvenirs, ses influences, ce qu'il a forgé en tant qu'artiste. Donc, je pense que ça aide à comprendre peut-être d'où vient son son. Par contre... je dirais de ne pas juste écouter ça pour connaître, connaître CFCF. Je dirais même de commencer carrément avec son premier, qui était dans le down-tempo, dans l'électro, donc plus... oui, c'est ça, plus smooth. Donc, il y avait quelque chose de comme plus accessible, entre guillemets. Et là, mais quand même...
C'est pas un album à écouter dans le bain, là.
C'est pas à écouter dans le bain. J'avoue que, tu sais, c'est comme inconstant comme album, avec ses écouteurs. Ouais. Mais c'est comme...
inconstant, hein? Ouais, clairement.
Donc je trouve que... Mais en même temps, je veux dire, c'est un album qui bouge bien. Ouais. C'est un album que, je veux dire, fait danser, là. Ouais. T'as besoin de bouger, ben go, là. Tu sais, tu vas retrouver... je pense que t'as assez... tout le monde, tu sais, il y a des gros hits là-dedans. Il y a des référents à des gros hits. Je veux dire, juste la toune, j'ai décidé de mettre après, qui s'appelle Night Day Work Home, est un rip-off un peu de Underworld. Tu sais, c'est du gros big beat en arrière. On sent Burn Sleepy à fond, tu sais. Et avec autre chose en dehors... avec
autre chose, le band de Lucien Francoeur.
Oui, autre chose. Un mix avec autre chose.
Un gros mix.
Non, mais pas...
Évidemment, passons. Non, mais non, c'est une blague.
Mais tout ça pour dire que oui, voilà, c'est quand même, il y a beaucoup de plaisir à aller chercher les influences.
Ouais. Fin de soirée, partie de salon, une boule disco, des paillettes, oui, puis du sourpuss.
Voilà. Exact. Et du sourpuss.
Puis tu sors ton oncle qui est rendu à 45 ans, puis qui fait comme « Ah man, j'avais tellement ton âge! Ouais. » Non mais...
Écoute, on va l'entendre derrière cette chanson-là, ce fameux mon oncle, « Night Day Work Home » de l'album CFC, de l'album Maryland, oui, de CFCF. On va aller encore une fois en écouter une partie parce que c'est une pièce d'une longueur approximative de 8 minutes.
D'accord.
Alors, on se développe sur beaucoup de temps là-dessus et je pense que c'est une des forces de CFCF, justement, de se déployer.
Oui, exact. Dans une même chanson, maintenant, c'est ça. Tu passes quelque chose d'un peu plus big beat à une partie de plus drum and bass. Oups, on passe dans quelque chose de hyper minimaliste. Puis ça se tient, tu sais. Fait que voilà.
Voilà, donc c'est apprécié de ton côté.
Oui, c'est
Guillaume.
Très apprécié de mon côté.
Memory Lane, CFCF, Night Day Work Home sur les ondes de Chiz 94.3.
Carry on. Keep me comfortable and sure. la crème du rap vous fait découvrir le meilleur du hip-hop d'ici et d'ailleurs. On est quatre gars passionnés qui représentent fièrement la capitale nationale. On fait jouer du bon beat, on jase des textes des artistes et on réalise des entrevues exclusives. La série Soul Sunday, la crème dans votre café, le meilleur du rap tous les jeudis 19h sur les ondes de Chiz 94.3.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis 14h sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
The following program is a disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
On continue la deuxième demi-heure de l'émission avec Born Ruffians. On va aller entendre pour débuter la chanson Checking Out.
Deuxième critique.
Born Ruffians avec Checking Out, sorti de leur, ben, en fait, sur leur dernier album qui vient de sortir, Pulp, Gabriel.
Les pulpes à Born Ruffians. Après Juice et Squeeze, donc un
on
album.
Est dans la thématique.
C'est une trilogie d'albums concept. Et voilà le dernier volet qui vient de paraître, Pulp. C'est une collection en fait de pièces inédites qu'ils n'ont jamais sorties dans les années passées. Donc voilà, Pulp, c'est le trio ontarien Born Ruffians, composé de Luke Lalonde, qui est le meneur du groupe, Guette Voix, qui est la voix qu'on entend. Effectivement. Mitch Desrosiers à la basse et Steve Hamelin au drum. Donc, un trio de noms francophones, mais qui ne parlent pas français pendant
trois
tout.
Trois gars de la Beauce, tu sais.
Ouais. C'est quand même fascinant. Mais bref, voilà, Born Ruffians qui nous sort Pulp, c'est le troisième d'un volet de d'albums inédits. Et ben effectivement, il y a plusieurs tunes là-dedans qui n'ont pas fait la coupure sur les albums précédents. Donc c'est un peu le concept. On dit, hey, on avait plein de matériel, on avait plein de tunes dans nos disques durs. Ben on fait des albums avec ça. Mm-hmm. Après plusieurs années, là, ça, il roule depuis vraiment, vraiment longtemps. Là, début
15 ans d'années. Là,
ouais, je pense 2008 ou presque.
Là, 2000.
Ouais, ça, 2008, je pense que c'était leur âge d'or. L'âge d'or du indie rock, les All-Stars du indie rock, c'était à ce moment-là. On peut aussi les mettre dans une étiquette de post-punk revival. Là. C'est comme une espèce de post-punk cliché très, très joyeux et hop la vie. Donc voilà, Born Ruffians, c'est ça le mood un peu derrière leur musique. Il y a plusieurs pièces là-dedans qui étaient censées être sur l'album de 2017 qui s'appelle Uncle Duke and the Chief. On peut parler de Happy Parasites qui est une de ces pièces-là, celle qu'on va écouter tout à l'heure en fait. C'est la dernière de l'album, donc c'est les extrémités que je vous fais écouter aujourd'hui à l'émission. Parce que en fait, c'est les deux pièces les plus marquantes qui sortent vraiment du lot à travers cette petite collection-là.
Mais ce qui est drôle, c'est que ces deux extrémités-là sont pas nécessairement, je dirais pas représentatives, mais sont assez différentes de d'autres chansons qui sont entre les deux, justement.
Oui, ouais, des pièces un peu plus douces, un peu plus down-tempo, comme Osha, qui date de déjà presque 10 ans. Ça paraît un petit peu aussi dans la composition, la production. Là, on entend un petit son un peu plus brut aussi, un peu plus, comment dire... premier degré.
Ouais.
Il n'y a pas eu beaucoup de travail, pas de mixing non plus.
Sur certaines chansons, on dirait le indie rock de il y a justement 10-12 ans, tu sais. Donc, tu fais, dans ma tête, il aurait pu leur travailler un petit peu.
Mais c'est ça, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas réinterprété les chansons, ils ont pris l'enregistrement de l'époque, peut-être un petit mastering et voilà. T'sais.
À peine, oui, effectivement. C'est ça, c'est le cas de Osha d'ailleurs, qui a presque 10 ans. Happy Parasites qui a déjà presque 5 ans aussi. Donc, c'est des pièces qui ont un certain âge et bien, il y en a certaines qui vieillissent très bien, qui sont un peu intemporels, d'autres qui vieillissent un peu mal. C'est le cas de cet album-là, qui est très court. D'ailleurs, on parle de 7 chansons pour 25 minutes et des poussières. Donc, c'est une écoute qu'on fait intégrale très,
ça,
très,
ça, très, très drôle
très
quand même, parce que certains qui ont 7 chansons considèrent leur album comme un EP et d'autres, 7 chansons, c'est un album. On sait plus ce que c'est.
Mais là, dans le cas de la trilogie, l'affaire, c'est que c'est la même... Pour Juice et Squeeze, les deux albums prédécesseurs, on est aussi dans le même genre de concept. Là,
tout
je
à fait,
crois.
C'est la même chose.
Ce qui explique que c'est 3 petits albums, s'il y avait décidé d'en faire un seul, ça serait un immense
exact.
Disque.
Mais pour moi, ça, c'est un album, là, dans le sens que pour moi, cette chanson, c'est un album. Là, je veux dire.
Mais c'est surtout la durée aussi. Là, on parle de presque 30 minutes.
Ouais.
C'est plus long qu'un EP normalement conçu. C'est ça, en fait, la trilogie des albums, c'est 26 pièces en tout. Donc, effectivement, ça aurait été un album un peu dense. Par contre, justement, il y a des pièces là-dedans qui sont un peu dans un ventre mou, là, qui passe presque inaperçu. Donc, c'est le cas de plein de chansons sur cet album-là. Et c'est le cas aussi sur Squeeze et Juice. Mm-hmm. Donc, voilà. Il aurait peut-être pu scinder un peu tout ça ensemble pour faire un album peaufiné et produit final un peu plus approfondi.
Et moi, j'ai vraiment aimé. Bon, on a entendu une chanson tout à l'heure qui nous ramène vraiment beaucoup dans le milieu des années 2000, dans cette espèce de pop-rock-là. Il y a certaines pièces qui ont un côté très Beatlesque. J'ai trouvé très mélodique, très un peu 60s dans les influences. Moi, c'est quelque chose que j'ai bien aimé.
Oui, on sent les années 60. Bon, je cherche le titre de la deuxième.
Mais il y a une chanson qui s'appelle Beyond the Lightning, que moi, j'ai vraiment retenu. Je me suis dit, OK, ici, on est pour les fans des Beatles dans quelque chose qui risque fort de les accrocher, en tout cas.
Tout à fait.
The Types of People, qui est la deuxième de l'album, qui est un peu plus Beatlesque, années 70.
Non, c'est ça, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Ouais. Il y a beaucoup d'éléments, il y a quelque chose de plus punk parfois, de plus rock, des trucs, comme tu l'as dit, un petit peu plus smooth. Il y a une chanson qui s'appelle Heat Waves, d'ailleurs,
qui était le premier single de l'album. Ouais, il y a des liens de parenté aussi à faire avec 2D Projectors. Là, les bands All-Star de la scène indie aux États-Unis dans les années 2000-2010. 2D Projectors, Vampire Weekends aussi, on l'entend, la voix de Luke Lalonde est à s'y méprendre. Effectivement. Local Natives aussi, qui est un band un peu parenté aussi avec ça. Hummingbird aussi, qui est comme une pièce qu'ils ont faite ensemble, d'ailleurs. Bref. Tu sais, ce son-là est inspiré au Québec, a inspiré plusieurs groupes au Québec. On pense à Half Moon Run qui font un son assez similaire. Mm-hmm. Franklin Electric, même chose.
Oui.
Là, donc, tu sais, un band prédécesseur et précurseur d'un mouvement indie rock qui a vu le jour.
Au final, la question que j'aurais envie de te poser, Gab, c'est est-ce que c'est pertinent comme exercice de ressortir ces vieux tiroirs, de ressortir son vieux stock comme ça, ou est-ce qu'il aurait pu aussi bien le garder pour eux autres?
Ouais, c'est du jus d'orange réchauffé. Tu sais, on l'a laissé sur le comptoir longtemps. Ce jus d'orange-là, faudrait le mettre au frigo.
Certains titres valent vraiment la peine d'être entendus. Puis pour vrai, je pense que oui, en effet, comme on disait tantôt, il y aurait moyen de faire peut-être deux albums, tu sais, ou ouais. ben, deux mini-albums ouais. au lieu d'en faire trois.
Tout à fait.
Il y a certains titres qui. Bon, c'est ça. C'est une de plus dans leur catalogue, mais qui n'amènent rien.
Ouais, mais au final, moi j'ai aimé mon écoute là, j'ai trouvé ça lumineux, j'ai trouvé ça énergique, j'ai pas trouvé ça audacieux, mais je pense que c'était pas ça le but de l'exercice.
Non, c'est
là.
Très ben, c'est très estival là, quand même.
Ouais, feel good album vraiment, ouais. Tout à fait. Puis ben c'est super plaisant, c'est du indie rock à son meilleur, puis effectivement, il y a certaines qui vieillissent mal, il y en a d'autres qui vieillissent très bien. Donc, c'est un album que je recommande à des initiés, mais aussi des puristes là, ça va. C'est un bon album.
Je confirme que en tant que puriste.
C'est très court aussi, l'écoute se fait vite, donc
oui.
On passe
ouais.
à autre chose après. Puis c'est...
Ouais, exact.
Le tour est joué.
Un petit 20 minutes bien expéditif pour se mettre de bonne humeur avec yes. Pulp de Bourne Ruffians. Et là, Gab, tu nous fais entendre
Happy
une autre
Parasites. Ouais, la fin de l'album. Donc, Happy Parasites, les parasites joyeux. Petit voyage en Angleterre avec London Grammar et la pièce Missing. Oh, I wish I was your favorite. Your creator is the all-seeing elf of the dogs who love the drama, mama. She's in the kitchen, best believing that she's cooking up a real storm for your traditional mixture. Everybody's got their own idea of right and wrong with arms wide open. Everybody's got their own idea of
The savior, you're a real life giver, the one who pays the five and lines up in the kitchen, a real mister with that jacket on, the girls all coking, the ones you've been provoking. Everybody's got their own idea of right and wrong with arms wide open. Everybody's got their own idea of right and wrong, the ones who get broken.
Troisième critique.
C'était Missing de London Grammar. Et bien, on s'en va dans la critique, dans le nerf de la guerre avec Émilie Rioux.
Yes, London Grammar, une information dont le nom vous est sans doute familier, chers écouteurs, chers auditeurs. C'est un trio qui se classe dans le domaine de la Dream Pop, entre autres, qui a été créé en 2009, mais qui ont sorti un premier album en 2013, qui est là qui se sont vraiment fait connaître. Mm-hmm. Et connaître beaucoup, tout de même, parce qu'à l'époque, on était dans l'apogée de ce style musical-là. On était vraiment dans le momentum, je dirais, de London Grammar et de la manière dont ils se positionnaient dans le monde musical. Ils étaient au top, ils étaient précurseurs, ils étaient les porte-étendards de ce genre musical-là en Angleterre, en tout cas d'où ils viennent, ouais. Avec l'album If You Wait en 2013. D'ailleurs, leurs deux premiers albums se sont fait beaucoup remarquer, notamment aux Brit Awards. On peut parler donc de nombreux prix, nombreuses nominations qu'ils ont reçues pour If You Wait en 2013 et pour Truth Is a Beautiful Thing en 2017. Un groupe qui un trio qui nous laisse souvent 3, 4, voire 5 ans entre les albums, alors qu'une cadence quand même assez lente au niveau des nouvelles sorties qui prennent leur temps, on pourrait le deviner, pour faire la composition, pour laisser mijoter leurs chansons. C'est Anna Reid, la chanteuse que vous avez entendue avec la voix si particulière. Je crois que c'est également ce qui a fait leur marque dans le milieu de la musique, c'était ce timbre de voix, ouais, qui donne des frissons, qui donne la chair de poule, qui fait lever le poil, appelez ça comme vous voulez. Une contralto, mesdames et messieurs, intolérante au gluten, il dit, ouais, sur la page Wikipédia, ça me semble important de le mentionner. Ouais. Ouais, exactement. C'est peut-être ça le secret de son talent.
Vous êtes pareil, Guillaume, finalement.
Exact, oui. Exact.
C'est ma sœur.
N'importe quoi. Dominic Major et Dan Rotham, donc, complètent le trio London Grammar. Un même genre de voix, en fait, qu'on retrouve maintenant abondamment dans le domaine musical. Donc, tout au long de mon écoute, moi, je me suis mis à faire énormément de parallèles avec des Florence and the Machine, une voix comme Florence Welch, une voix comme Astra également, qui a ce même genre de feutré dans la voix, mais aussi de virtuosité, qui est capable d'aller dans les aigus autant que dans les graves. Ce genre de voix. Alors, j'ai parlé énormément de genre au cours de ma critique parce qu'évidemment, London Grammar, à l'époque, en 2009, 10, 11, 12, 13, lorsqu'ils ont commencé à évoluer dans le milieu musical, ça existait peu. Et là, je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes qui ont suivi le mouvement et qui, maintenant, nous font un portrait de la Dream Pop avec ce type de voix-là qui est assez présent. C'est un album qui est tout en douceur, qui s'appelle California Soil. D'ailleurs, tout à l'heure, on ira entendre la pièce-titre pour conclure la critique. Album tout en douceur qui tire sa force, je trouve, dans les paroles. Si vous portez attention à tout ce qui est contenu plutôt que contenant, donc vraiment la musique, les paroles plutôt que la musique, il y a quelque chose de vraiment touchant là-dedans sur beaucoup de thèmes de vieillir, en fait, du vieillissement en tant que femme, de vieillir en étant connue publiquement. En fait, Hannah Reid a fait beaucoup d'introspection là-dedans. On parle aussi beaucoup de problématiques relationnelles, mais d'un angle toujours intéressant. Moi, du côté des paroles, là, lyriquement, comme on dit en bon latin, je vous invite à écouter Call Your Friends, qui est une chanson sur la femme qui va se mettre de côté, va s'effacer pour laisser plus de place à son partenaire et qui finalement ne gagne absolument rien de ça. Fait que c'est intéressant de voir ces perspectives-là, justement, qui sont peu fréquentes. Je veux dire, des chansons sur les relations amoureuses ou les relations interpersonnelles, il y en a une puis une autre, une tonne. Mais il y a un angle qui est quand même intéressant, je pense, dans l'approche des paroles de Hannah Reid. Musicalement, pour y venir, si vous connaissez déjà London Grammar et que vous écoutez justement cette trilogie d'albums 2013, 2017 et 2021, vous allez remarquer une nette évolution. Cet album-là, si on le compare au reste de leur discographie, est pas pareil. On sent qu'il y a une volonté de tirer plus vers la pop, même peut-être qu'il y a plus de rythme. Il y a quelque chose de très 90s, même dans les tones de guitare qui sont employés. Je pense qu'on le voit partout, les 90s, dans la musique. Hein, on a des référents partout.
Trip-hop et...
Exact. Beaucoup de R&B aussi. Ouais. Parfois dans la manière de chanter même de Hannah qu'elle a modifiée pour cette fois-ci, j'ai l'impression. Et je tiens à dire là, que, comme je le disais d'entrée de jeu, je n'avais pas écouté d'album de London Grammar, donc j'ai fait une écoute rétrospective là, vraiment hier, en fait, là, des anciens albums. Hein? Ouais. Donc c'est frais dans ma mémoire, donc je les comparais vraiment de manière plaquée. J'ai fait, OK, ça et ça ensemble, c'est quoi la différence? C'est un petit peu ça que je vous explique finalement. Il y a beaucoup d'arrangements de cordes là-dedans et fait à la manière des 90s, justement, tu sais, des petites cordes à droite et à gauche. Là, on entendait ça dans le temps d'Alanis Morissette énormément. On entendait ça, tu sais, de cette manière d'arranger des cordes. Le disque, je trouve qu'il y a un beau crescendo dedans. De la première à la dernière toune, on sent qu'il y a quelque chose qui évolue. On arrive quelque part. Ça, c'est super bien. Il y a un effort aussi du côté de certaines créativités des arrangements. Puis il y a certaines pistes qui sont même presque dance, comme How Does It Feel, Baby It's You, des chansons qui ont un bon petit beat dance. Ça, je ne m'attendais pas à entendre ça de la part de London Grammar, qui était très contemplatif, très, très flottant, presque dans leurs arrangements musicaux. Par contre, là où j'ai un bémol à mettre sur California Soil, c'est que je trouve que c'est un album qui manque d'audace par rapport au paysage musical actuel. On le disait, ils ont été vraiment les porte-étendards de ce genre-là, mais ce genre-là a énormément évolué depuis les dernières années.
Vraiment.
Et aujourd'hui, en revenant avec un nouvel album, je me disais, oh, OK, ça, ce que j'entends là, non seulement ça existe déjà, et je l'ai déjà entendu fait de manière beaucoup plus créative, plus audacieuse, plus inventive. Je pense notamment à The Weather Station avec leur album Ignorance, que j'ai critiqué au début de l'année ici, qui pour moi est un album qui est un proche parent, un cousin même là, dans le style de la chanteuse de Weather Station, qui est mieux fait. J'ai fait, tu vois, tant qu'elle écoute un album de ce genre-là, j'aime mieux retourner à l'album Ignorance de Weather Station que d'aller dans ce qu'a proposé London Grammar.
Oui, ben, je suis tout à fait d'accord. Personnellement, je trouve que leur son, justement, comme tu disais, l'album If You Wait, leur premier, c'était, ils sont arrivés avec un son, ils ont imposé quelque chose qui est devenu très fort par la suite, qui a été repris par beaucoup d'artistes et qui, là, en fait, sont un peu en queue de peloton. Ils décident de garder ce son-là, mais ils le renouvellent peu. Je vais dire, pas du, ils mais renouvellent quand même, parce que justement, la section dance, tout ça, sont allés chercher un réalisateur, George Fitzgerald, qui est beaucoup plus dans un électro, vraiment intéressante, que j'aime, un artiste que j'aime beaucoup. Et on le sent derrière certains titres. Et ces titres-là, c'est ceux que je préfère, en fait, parce que justement, ils vont dans quelque chose un peu plus dance, un peu plus, ben, c'est très 90s, mais en même temps, ben, c'est ça, qui va dans un nouveau son pour eux. Donc, pour moi, ça...
Pour eux, mais tu sais, dans une espèce de bulle fermée au reste du monde.
Exact. Donc, ce qui fait que moi aussi, j'ai un peu été déçu par ce troisième album. Puis, en fait, j'étais un peu déçu, mais malgré tout, je le préfère au deuxième album qui, pour moi, était d'une platitude extrême. Le deuxième, je l'ai détesté. Je l'ai à peine écouté.
Mais voyons.
Moi aussi, pareil. Vrai.
Et tandis que le premier, je l'ai usé à la corde. Tu sais, le premier, il y avait c'était beaucoup plus électro. Il y avait des influences French Touch. Ouais, c'est ça. Il y avait plein de trucs qui étaient hyper intéressants dans le premier. Puis, c'est pour ça que ça a eu une espèce d'impact fou. Et là, avec le deuxième, il m'avait déçu de manière incroyable. Mm. Et là, je trouve, bon, il s'écoute mieux, celui-là, mais par bribes. Encore une fois, c'est ça, je trouve que, ben, comme la tune Missing que tu as mis en premier, pour moi, c'est une des tunes les plus plates de l'album.
Mais elle est tellement 90s qu'on dirait, justement, tu sais, il y a plein de chanteuses des années 90-2000 là-dedans.
Oui, puis tu sais, bon, il y a une espèce de truc très pastoral dans les grandes, les grandes envolées, puis la voix hyper éthérée, tu sais, mais... tu sais, je veux dire, c'est bon, c'est bien produit, la réalisation est superbe, mais je trouve que c'est ça, il y a une espèce de... Il y a une longueur qui fait en sorte que... Puis surtout, après, tu sais, je pense que la deuxième moitié de l'album, là, on tombe dans une longueur totale, puis c'est juste très lent et très... Donc, moi, je me suis tanné, là, vraiment, pendant l'écoute.
Je pense que Gab, t'as l'air un peu d'avoir le même genre de perspective.
Ouais, cet album-là m'a laissé mi-chaud, mi-froid.
Ouais.
J'ai rien à dire.
Mais
ça paraît, j'ai rien dit.
En terminant, une question pour vous qui est quand même importante, parce que je me suis demandé, moi, est-ce qu'un band qui a été si important pour un mouvement musical à une autre époque a le devoir d'évoluer, a le devoir de peut-être se positionner constamment comme étant à l'avant-garde, ou est-ce qu'on peut juste les laisser dans leur genre musical exister puis être tranquille, tu sais?
Bien, en fait, c'est sûr que c'est des choix artistiques de leur part de rester dans un créneau puis de faire, OK, on pousse le plus loin possible, ou je veux dire, ils ont des fans aussi qui les suivent depuis le début, qui risquent d'avoir apprécié cet album-là. Personnellement, j'ai hâte à ce qu'ils se renouvellent. J'ai hâte à un album qui vont juste switcher de bord, un peu comme Jessie Ware a fait cette année. Est arrivé avec un album électro produit par les gars de... un des gars de Simeon, Mobile Disco, qui, tu sais, je veux dire, avant, était dans quelque chose de très jazzy, une pop très jazzy.
Ouais.
Puis là, est arrivé un album dance, électro, mais hyper actuel. Donc, assez renouvelé. Je la trouvais un peu plate dans les dernières années. Tu sais, là, cet album-là, je l'ai écouté, tu sais, énormément. Donc, il y a moyen de se renouveler tout en restant dans une espèce de créneau qui te ressemble. C'est juste, va chercher des bons réalisateurs.
Ouais.
Ce qu'ils ont fait à moitié, j'ai l'impression, comme je disais tantôt, parce qu'il y a des réalisateurs que j'aime.
Il y a une volonté d'évoluer, mais on va pas au-delà de... Tu sais, il y a pas d'audace, il y a pas de surprise.
Ouais, exact.
Il y a pas de « Oh!
» Exact. Donc, c'est ça, une espèce de... Oui,
ils ont signé sur Ministry of Sounds, qui est un gros label d'électro, là, même trance, techno, dance.
Hyper surpris. Moi aussi, j'ai fait comme, ben, vous aviez tout pour que ça change. Non, ça se passe pas.
Donc, ce genre d'album-là nous donne le goût d'écouter If You Wait, le premier album, tout simplement.
Ah, voilà.
Simplement.
Oui, j'ai goût de retourner au premier, c'est sûr. C'est
je pense qu'on va terminer là-dessus. On va aller entendre un extrait de California Soul, la pièce titre, et ensuite, ben, les sorties de la semaine qu'on surveille encore une fois avec Gabriel Tremblay. Ça s'en vient au Club Critique.
sortie de la semaine.
C'est le printemps, il y a plein de sorties de la semaine. On vous a fait une belle liste d'épiceries. Gabriel Tremblay, qu'est-ce qu'on écoute vendredi?
C'est le moment radar.
Radar.
TDA, Samuel Gougou, qu'on a connu pour Victime. Le Trafic des airs, c'est l'acronyme. Donc, il nous sort un premier album solo. TDA.
Pas TDAH. Lui, il est juste TDA.
Il n'y a pas de H. Non. Donc, il n'est pas hyperactif, notre Samuel Gougou. Peut-être qu'il est un peu derrière ses drums, mais bon. Charlotte Cardin aussi, grande sensation pop. Son premier album, finalement, après une pochetée de EP et de remix de cover, etc.
Bon, album dont la sortie a été remis moult fois aussi cette année. On a hâte de voir si ça valait la peine.
Voilà.
Yes. Laurent Sanne aussi, qui nous sort un album. On a hâte.
Oui, on a très hâte de voir.
Ça va être différent complètement. Là. Les chansons qu'elle a sorties jusqu'à maintenant n'ont rien à voir avec son premier disque. Fait que ça va être Laurent Sanne 2.0.
Puis elle avait un EP sorti l'an dernier aussi.
Yes.
Donc,
tout à fait.
Une prélude à cet album-là. Alpha Mist aussi, du beau jazz hip-hop londonien que j'adore depuis quelques années d'ailleurs. Il y a Laura Lefebvre aussi, notre traite, hein, qui est partie pour Montréal. Elle nous sort La Terre est plate, donc son deuxième EP en carrière.
Clairement, c'est inspiré de Montréal, là, oui. Où vraiment là-bas, là, la Terre est plate.
Et elle est devenue platiste.